Les traces laissées par la vie quotidienne des hommes sont multiples, mais malheureusement parcellaires à des degrés divers, quelle que soit la période historique envisagée. Trois sites sur la commune de Miers illustrent ce regrettable constat. Chacun d'eux livre une facette des activités humaines, laissant dans l'ombre de l'oubli des pans entiers de leur vécu respectif. Des traces d'occupation paléolithique pour le campement et sanctuaire préhistorique des Fieux, des tombes néolithiques, les dolmens et un hameau abandonné constituent toutefois une concentration patrimoniale ne pouvant que réjouir l'historien, amateur ou professionnel. La complémentarité de ces trois lieux de mémoire constitue un atout majeur pour attirer scolaires et adultes, autochtones et touristes. La préservation et la mise en valeur de ces vestiges incombent aux collectivités publiques, mais également à des associations. Flints gère avec efficacité et passion l'archéosite des Fieux. Les trois dolmens ont été l'objet d'articles dans diverses revues. Reste le hameau abandonné de Barrière. Ce hameau, à l'abandon depuis le début du XXe siècle, est un petit village situé sur la commune de Miers, au cœur du parc naturel des Causses du Quercy. Les 1001 vestiges de pierre, fondations d'anciennes bâtisses ou granges, font de ce lieu un vif témoin d'une époque passée. En vous promenant dans ce hameau, vous serez surpris par la diversité de ces anciennes bâtisses, construites avec des pierres calcaires du Causse. L'association des Clames, basée à Figeac, propose depuis plus de 5 ans des chantiers participatifs pour mineurs à Fessel, Prandaigne et Saint-Père-d'Oult. Elle a été contactée par l'association Racine pour mettre en place un chantier permettant la mise en valeur de ce patrimoine abandonné. Leurs actions portent sur la mise en valeur du site et la reprise de murs en pierre sèche. L'idée est de valoriser le site, en faire un lieu de sensibilisation, un outil pédagogique et surtout un lieu réinvesti par les habitants et acteurs locaux. Pour ce chantier qui s'est déroulé du 3 au 15 août, ils ont accueilli 14 adultes bénévoles provenant des quatre coins du monde. L'un des piliers de Déclame est de mettre en place des actions qui favorisent un mieux vivre ensemble, la convivialité du chantier, l'huile de coude, le coup de main au voisin, les bonnes bouffes, la prise d'initiative, des petites choses qui donnent cette valeur atypique au chantier. Pour cela, il est important que les participants respectent le site, fassent preuve d'autonomie et de responsabilité. Dans ce reportage, vous allez découvrir non seulement l'histoire de ce site extraordinaire, mais aussi l'ambiance conviviale des chantiers participatifs de Déclame. Gilles Faux, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici sur le hameau de Barrière, sur la commune de Miers. Vous êtes donc adjoint au maire. Un site donc qui est en restauration, en rénovation. D'où est parti ce projet ?
Georges Maisonhotte, qui est le principal propriétaire du hameau abandonné de Barrière, donc sur la commune de Miers, a décidé il y a environ 2 ans de céder à la commune la quasi-totalité des parcelles bâties. Ce hameau, les compétences donc ont été transférées à la communauté du pays de Padirac d'abord et depuis le 1er janvier à Coval d'Or, la grande communauté de communes du nord du Lot.
Ici, c'est un site donc abandonné. Abandonné depuis combien de temps et depuis quand
Alors, la dernière habitante à temps plein permanente de Barrière était Victoria Treille et elle est décédée en 2001. Alors, il faut dire que le hameau abandonné de Barrière s'inscrit dans un réseau patrimonial très dense sur la commune de Miers et complémentaire, puisque à environ 500 mètres de là, nous avons la grotte des Fieux, qui est une des grottes ornées les plus anciennes du Quercy, avec des habitats paléolithiques et mésolithiques notamment. Nous avons aussi sur la commune de Miers une bonne douzaine de dolmens, dont 3 sont très proches de Barrières. Il y a 3 dolmens autour de Barrières. Et à quelques kilomètres de là, nous avons également la source Salmière qui est en train de renaître. Donc nous avons tout un réseau patrimonial complémentaire dans un rayon qui est vraiment très, très, très modeste.
Alors nous sommes ici donc dans ce hameau où il y a beaucoup, beaucoup de pierres, des murs en pierre sèche. On a du mal à s'imaginer les habitations, mais j'imagine qu'il y en a tout autour. Il y avait vraiment une vie de village ici ?
Alors on suppose que l'existence de Barrières est liée à l'existence du couvent des Fieux, qui est un couvent qui a été créé à la fin du XIIIe siècle, en 1297, et qui recevait des religieuses de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Et ce couvent donc, a fonctionné de 1297 à 1624, parce que par décision royale, les religieuses ont été transférées chez leurs consœurs à l'hôpital Saint-Jean, parce qu'elles étaient dans un tel état de pauvreté, malgré qu'elles géraient quand même un domaine de 400 hectares. Donc le hameau de Barrières, tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas contemporain du fonctionnement de l'établissement religieux, puisque les maisons sont postérieures. Voilà. Donc nous avons l'association Racine, dont je suis le président, a initié un travail de recherche qui a abouti sur un ouvrage qui est paru il y a maintenant 2 ans. Ouvrage qui est à la fois une approche historique et esthétique du hameau de Barrières. Historique parce qu'on a essayé de voir à travers les principaux documents d'archives de définir ce qu'était un peu la vie de cette micro-société rurale. Et puis une approche esthétique, puisque des photographes amateurs passionnés, des écrivains, notamment de l'atelier d'écriture de Gramma, ont fait part de leur perception donc de ce hameau de ruiné qui est quasi unique en Quercy.
Est-ce qu'on peut retrouver aussi des documents anciens qui parlent de ce hameau ?
Alors oui, nous avons mené des recherches notamment aux archives départementales donc du Lot, à Cahors, et puis aussi dans des archives privées. Nous avons quelques idées sur l'habitat, l'importance de l'habitat au hameau abandonné de Barrières. Nous avons retrouvé des rôles de taille, donc dans l'impôt sous l'Ancien Régime. Il y avait 9 personnes qui payaient la taille à Barrières, ce qui ne veut pas dire forcément qu'elles habitaient Barrières, mais qu'elles y avaient au moins des biens. Et ensuite, à travers bien sûr les registres paroissiaux ou l'état civil après la Révolution française, les actes notariés nous n'ont pas apporté beaucoup d'informations. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de testament, d'inventaire après décès ou de contrat de mariage de gens habitant dans Barrières. Mais bon, les recherches ne sont pas achevées, donc il y a encore de ce côté-ci quelques espoirs. Nous avons le cadastre ancien, dit de Napoléon, de 1824, donc il nous donne une photographie du hameau de Barrières à cette époque-là, avec la nature des différents bâtiments et le nom des propriétaires. Et avec, bien sûr, la nature de l'occupation du sol, des vignes, des prés, etc. Et nous avons aussi les listes nominatives de recensement qui commencent au début du XIXe siècle, mais dans lesquelles il n'est pas fait de distinction entre le bourg de Mierres et les différents hameaux. Donc il est difficile de s'y retrouver. Mais à partir de 1880, il y a un classement des hameaux et du bourg. Donc là, on a une photographie de la démographie de Barrières de 1880 jusqu'en 1945. Donc la période où il y a eu le plus d'habitants à Barrières, c'était avant la Première Guerre mondiale. Il y a eu jusqu'à une cinquantaine de personnes avec 13 foyers. Après la Première Guerre mondiale, il n'y a plus que 3 foyers, donc une chute très importante de la démographie. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il ne reste plus qu'une famille. Victoria Treille, enfin de la famille Maison Haute, donc son mari Maison Haute et Victoria Treille, et le mari décédant, c'est Victoria qui sera la dernière habitante du hameau abandonné de Barrières. Et elle allait, pour l'anecdote, déposer des fleurs sur les dolmens à côté de Barrières parce qu'elle y voyait des fées.
Et oui, Mierres, on est quand même sur une commune où il y a l'archéosite des Fieux, donc un site archéologique. Pensez-vous qu'il y a un lien entre le fait que des gens sont venus habiter dans cette partie du Lot et la proximité de ce site archéologique ?
Alors c'est difficile de savoir. Le site des Fieux, donc, il y a une grotte ornée qui est une des plus anciennes du Quercy. Et il y a des occupations paléolithiques anciennes, enfin de moyennes anciennes par la chronologie, mésolithique, donc après le réchauffement, on est autour de 7-8 000 avant Jésus-Christ, donc des périodes de halte, mais assez prolongées apparemment. Donc là, c'est pour le site des Fieux. Après, nous avons les dolmens, donc, qui sont des tombes collectives du néolithique. Ceux du Quercy sont datent d'à peu près de 2000-2200 avant Jésus-Christ, période de l'âge du cuivre, le chalcolithique. Donc là, nous avons les tombes, mais nous n'avons pas les habitations de cette époque-là, parce que comme on le voit quand on se promène à Barrières et dans son environnement, la roche à fleurs et donc les maisons étant construites en bois, en torchis, en paille, etc., eh bien, on a aucun vestige des habitations, malheureusement. Nous n'avons que les sépultures. Voilà. La source Salmière, elle, est un endroit plus récent, bien sûr, sa création doit remonter à l'Ancien Régime, mais peut-être avec une implantation déjà gallo-romaine, hein, puisque les gallo-romains étaient très versés sur l'eau. Hein. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que entre ce hameau de Barrières et la station thermale, il n'y a que 3-4 km, pas plus. Et là, on a vraiment deux mondes complètement différents. Le hameau de Barrières où cette micro-société vivait en quasi-autarcie. Et puis la source Salmière qui était un endroit cosmopolite où il y avait Francis Carco, Pierre Loti qui sont venus et Madame de Maintenon apparemment prendre les eaux. Donc deux mondes complètement différents qui se côtoyaient à quelques kilomètres de distance.
Deux mondes géologiquement différents aussi, puisqu'ici nous sommes plus sur un côté calcaire, non ? Plus sur du cos, et donc juste à côté on trouve des sources thermales.
Voilà, on est dans le Limargue et on a des sources thermales, oui, tout à fait. Mais la source Salmière est en milieu calcaire, sauf erreur de ma part, hein, milieu quartzique.
D'accord. Donc ici, vous accueillez aussi une association d'Éclam qui vient de Figeac et qui met en place des chantiers participatifs. C'est la première année qu'ils viennent sur ce chantier-là, sur MIRS. Comment s'est passée cette rencontre et voilà, pourquoi avoir fait appel à eux ?
Alors nous avons fait appel à la société d'Éclam parce que bien sûr nous avons une volonté de sauvegarde de ce patrimoine, comme je le disais, quasi unique en Quercy. C'est un lieu de mémoire, le hameau abandonné de Barrières. Donc nous avons bien sûr une volonté de sécurisation d'abord du site, parce qu'à partir du moment où on organise des manifestations, que l'on fait venir du public, on engage sa responsabilité. Donc dans une première phase, nous avons travaillé à l'élaboration d'un parcours de déambulation sécurisé. Le parc naturel régional des Causses du Quercy nous a doté d'un totem, d'un panneau explicatif indiquant les mesures de sécurité à respecter et puis un peu un cours historique du hameau pour les visiteurs qui sont très nombreux. Et ensuite, donc, nous avons sollicité des clams pour, non pas restaurer les maisons, mais pour consolider les maisons, faire apparaître leur emprise sur le sol et mieux définir leur structure, de façon à ce que les visiteurs aient une meilleure lecture donc de ces ruines. Et je dois dire que nous sommes très satisfaits de l'intervention cette année, pour la première année de l'association d'Éclam, puisque là nous arrivons au terme de leur chantier de 2 semaines, et force est de reconnaître qu'ils ont abattu un travail extraordinaire. Ils se sont attachés à une des plus belles maisons du hameau, qu'ils ont rebâti des murs, ils ont fait apparaître, comme je le disais, les structures de façon plus nette, ils ont nettoyé les chemins d'accès. C'est un travail extraordinaire et nous souhaitons qu'une seule chose, c'est que ce type de chantier avec des clams perdure au moins encore 4 ou 5 ans de façon à couvrir la quasi-totalité des parcelles qui appartiennent à la commune. Voilà. Et en parallèle, bien sûr, nous avons aussi une volonté d'animation. Nous essayons d'animer au moins une fois par an le hameau abandonné de Barrières. Au mois de juillet, nous avons eu une nuit des étoiles, puisque là, nous sommes dans un triangle noir où on peut observer le ciel de façon tout à fait poussée. Et nous avons reçu donc une centaine de personnes. Ça a été un très beau succès. L'année dernière, à Barrières, nous avons eu une journée consacrée à la pierre. C'est un thème qui s'imposait, évidemment, avec l'érection d'une nouvelle croix qui avait disparu là, dans le hameau, un carrefour de plusieurs chemins, avec des conférences sur la pierre, des ateliers d'écriture, etc. Et donc, la semaine dernière, nous avons eu aussi une journée dont le thème principal est le théâtre, cette fois-ci, avec... bien sûr une partie porte ouverte du chantier de Desclames pour que les lotois et les touristes découvrent le travail qui a été accompli et découvrent le fonctionnement d'une telle association. Nous avons eu également une visite théâtralisée du hameau en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire. Une conférence de Gaston Bazalgues sur la vie quotidienne à Barrières autour de 1900. Et la soirée s'est achevée par une pièce de théâtre de boulevard jouée par des acteurs et un auteur lotois. L'année prochaine, le thème principal devrait être la musique, parce qu'il faut reconnaître que Barrières constitue un très très bel écrin, pour toutes ces manifestations-là.
Merci beaucoup, Gilles, de nous avoir présenté ce site. Je vais maintenant m'adresser à Dimitri pour la présentation du chantier et puis aller voir un petit peu quelques participants pour recueillir leurs témoignages. Bonjour Dimitri.
Bonjour Fred.
Alors nous sommes à Mirs avec le premier chantier de Desclames sur ce site-là. En quoi ça consiste ? Quel est le boulot de Desclames là aujourd'hui ?
Alors là nous travaillons sur le hameau de Barrières. Donc c'est un vieux village pierre sèche abandonné depuis le début du XXe siècle, quoi, autour de 1910-1920. Donc c'est un village finalement assez grand, où à une époque il y avait quand même plusieurs dizaines d'habitants. Et c'est un premier travail avec la commune de Mirs qui nous a sollicité pour venir faire un chantier et commencer, on va dire, à donner à voir ce que pouvait être ce village et refaire de la pierre sèche.
Alors, d'habitude, les chantiers participatifs que vous organisez, c'est avec des jeunes. Là, pour la première fois, vous ouvrez un chantier pour les adultes. Donc, une première pour tout, quoi, finalement.
Ben c'est ça, en fait, on n'avait pas forcément vocation à venir à Mirs parce que nous, on travaille plutôt autour de Figeac, sur les communes de Prandaine, Saint-Perdoux et Feissel, depuis 5-6 ans maintenant. Et là, on s'est retrouvés face à cette sollicitation et ils avaient envie que ce soit nous qui venions. Et nous, on avait envie d'expérimenter depuis quelques années le chantier adulte. Et ici, c'était vraiment propice à ça par rapport au savoir-faire pierre sèche et par rapport au fait que c'est vraiment attractif. On est à côté de Padirac, à côté de Rocamadour, et le chantier en lui-même est impressionnant.
Ah oui, tellement impressionnant qu'il y en a pour quelques années de restauration, là, c'est ça ?
Alors nous, en ce qui nous concerne, on est d'abord sur une première année d'expérimentation, même autant eux que nous, autant la commune que nous. Nous, on voulait voir dans quelle mesure on était capable de le faire. Pour l'instant, clairement, on est capable, on est plutôt satisfait du résultat. Après, il faut demander à la commune, mais je pense que c'est le cas aussi, ils sont encore passés ce matin. Donc voilà, après oui, il y aurait plusieurs années de travail, plusieurs dizaines d'années de travail. Donc nous, on décidera, comme chaque année, à l'automne, avec le conseil d'administration, notre avenir de ces prochaines années avec Mirs.
Alors comment s'est constitué le groupe cette année ?
Après, ça fonctionne toujours pareil, on est membre de l'Union Rempart. Donc les gens qui veulent faire du chantier passent par cette union nationale qui communique, ils ont un catalogue, un site internet. Et voilà, les adultes s'inscrivent finalement comme les jeunes, sauf qu'on est moins embêté par des paperasses, on n'a pas besoin d'une grosse équipe d'encadrants. Par contre, plus un encadrant technique, c'est pour ça qu'on a notamment Yannick Delmas qui est encadrant pierre sèche, diplômé. Qui travaille avec nous maintenant depuis 2 ans. Donc voilà, c'est vraiment plus tourné technique, quoi. Donc les adultes qui veulent apprendre la pierre sèche s'inscrivent via Rempart et après ils arrivent ici et on vit ensemble pendant 15 jours.
15 jours ouais, de travail dans une bonne humeur. Ce sont des gens qui connaissaient déjà un petit peu ce métier-là ou pas du tout ? Des gens qui sont venus découvrir un petit peu la rénovation, la restauration ?
Ce qui est assez intéressant sur les chantiers adultes, finalement, comme les chantiers mineurs, mais c'est la différence, quoi. Il y a de tout, en fait. Il y a des étrangers, il y a des gens qui sont déjà dans une dynamique de bâtiment et qui ont envie de venir apprendre ça. Il y a des gens, des étudiants qui sont plutôt archéologie, histoire de l'art, donc qui viennent un petit peu découvrir ces choses-là. C'est plus l'aspect historique qui les intéresse. Il y en a qui tombent un peu là par hasard aussi. Voilà, il y a tout et c'est ça qui est super dans le vivre ensemble pendant ces 15 jours, c'est que chacun se découvre et trouve une bonne raison d'être là, finalement.
Et 15 jours où il y a eu tous les temps, le soleil, la canicule, la pluie, les nuages, un peu le vent comme aujourd'hui, c'est la fin du chantier. Comment ça s'est passé la vie en collectivité pendant ces 15 jours ?
Ben, ça s'est bien passé. Nous, comme on l'avait dit, c'était un premier chantier adulte. On savait pas forcément comment fonctionner, comment se comporter. C'est pas comme des mineurs où on a un rôle aussi d'accompagnateur. Là, on laisse un peu faire. On donne quelques idées au départ d'expérience du vivre ensemble. Et puis après, les choses se font. On veille juste, nous, toujours à ce qu'on mange. Là, on est un peu intransigeant là-dessus, sur où est-ce qu'on va faire les courses. On fonctionne toujours avec soit des produits locaux, on ne va pas dans les grandes surfaces. On a toujours cette même rigueur, on va dire. Voilà, c'est la seule chose qu'on impose après, et travailler. On travaille 6 heures par jour et on a un jour de repos tous les 3 jours. Voilà. Donc il y a neuf journées de 6 heures de travail à 14.
À 14 personnes, le couchage, c'est sous la tente, en camping, quoi.
C'est ça, sous la tente. Là, la commune nous met à disposition donc la structure du stade, les vestiaires. Donc à Mierce, ils ont quand même une salle, une cuisine. Donc c'est même plus confort que ce qu'on a l'habitude d'avoir jusqu'à présent. C'est sous tente. Il y en a qui dorment dans leur voiture, dans leur camion. Enfin, c'est un autre style qu'avec les mineurs, où là tout le monde doit dormir dans la tente, tout le monde doit aller se coucher à telle heure. Là, chacun fait un peu comme il veut. En général, les gens vont se coucher tôt parce que c'est d'autant plus technique, d'autant plus quand même physique aussi, surtout la première semaine où il a fait très 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 chaud. Donc on attaquait très tôt le matin pour moins en pâtir de la canicule de l'après-midi. Donc c'était efficace, quoi.
Merci Dimitri, je vais aller voir maintenant les gens qui ont participé à ce chantier. Merci. Allez, je viens vous embêter 2 minutes dans votre chantier. Attention, parce qu'il y a des pierres qui sont sorties là, je suppose qu'il ne faut pas marcher dessus, et qui sont rangées, non, c'est pas ça ?
Alors là, non, c'est pas encore rangé en fait. On a, au fur et à mesure qu'on construit le mur, on essaye des pierres, donc il faut pouvoir les caler, parce qu'on n'a pas de mortier, donc tout est. Il faut caler, il faut que les pierres tiennent les unes entre elles, qu'elles se collent, qu'elles jointent. Donc on en essaye une, ça va pas, donc on la pose à côté, et du coup c'est vrai que autour du mur il y a plein de pierres qui se baladent, et il faut y faire attention parce qu'on risque des fois de tomber ou de se faire un peu mal, mais voilà, donc c'est le chantier, quoi, comme on dit en général, c'est le chantier, voilà.
Donc c'est un muret en pierre sèche, donc effectivement il n'y a pas de mortier, il n'y a rien. C'était la première fois pour vous de cette implication sur un chantier comme ça ?
Oui. Toute première, j'ai déjà touché un peu de pierre comme ça. J'aime bien regarder les vieux murs aussi, ça m'intéresse. C'est des trucs qui sont agréables aussi à voir, à essayer de comprendre comment c'est formé. Puis là, forcément, on est en plein dedans, donc on voit comment ça marche. Et c'est vrai que c'est assez délicat à la fois. On a différents types de murs. Ici, nous, on est sur du mur paysan. Donc c'est un bâti qui est plus pas plus lâche, mais plus, comment dire, qui est moins soignée que le mur qui est derrière, qui est vraiment un mur d'habitation. Donc on peut le voir, par exemple, vous avez des pierres qui sont de meilleure facture de l'autre côté qu'ici. Et dans l'ensemble du mur, l'aspect est beaucoup moins soigné, quoi.
Voilà. Et pour toi, c'est une première aussi ou pas du tout ?
Alors pour moi, le chantier, c'est une première. La maçonnerie tout court, c'est une première. Jamais touché de la pierre. À la base, je fais de l'informatique, donc aucun rapport. Donc on apprend quand même super rapidement ici, c'est super intéressant, ça me change de ce que je fais habituellement, forcément. C'est agréable d'avoir du concret, de travailler pour une communauté, d'être intégré à un groupe, parce qu'en dehors du côté chantier, il y a le côté vie en communauté, on a une quinzaine de bénévoles qui ne se connaissent pas à la base et qui sont amenés à vivre ensemble et qui ont un projet commun, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, c'est du bonheur.
Après, il va falloir retourner à ses ordinateurs, c'est ça ?
Voilà, dans une semaine, c'est le retour à l'informatique, au truc un peu moins drôle, un peu moins funky. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde.
Merci beaucoup. Ah oui, voilà. Non, mais je peux descendre parmi vous ? Ouais ? C'est pas interdit ? Alors, je vous vois avec une pelle, des seaux, vous faites quoi là ici ?
On déblaye toute la dalle au sol. On décaisse toute la terre qu'il y avait eu avec tous les tessons, les morceaux de tuiles qui provenaient certainement du toit. Et on évacue pour faire une dalle bien propre au sol.
Parce que là en fait c'était une maison, c'est ça ? On est à l'enceinte d'une maison ici.
Exactement.
Une maison bâtie, est-ce que vous a donné la date, une idée de la date ou pas ?
On nous l'a donné, mais je ne m'en rappelle pas là.
Est-ce que c'est la première fois que tu participes à un chantier participatif comme ça ?
Un chantier, oui. Enfin, un chantier comme ça, oui. Un chantier tout court, non. J'ai déjà travaillé dans le bâtiment avant. Et c'est un truc de restauration comme ça, c'est la première fois.
Et alors, est-ce que ça te plaît ? Est-ce qu'il y a des différences par rapport à tes expériences professionnelles ?
Oui, il y en a, mais en même temps, c'est quand même sympa. Ouais, c'est vraiment une bonne ambiance. Ça change.
Ça change, ça veut dire que tu as appris des choses quand même, que tu peux mettre en application dans ton milieu professionnel ou pas ?
Oui. Après, dans le milieu dans lequel j'ai travaillé, c'était plus orienté grosses œuvres, donc il y a des différences, mais sinon, ça pourra bien m'aider pour plus tard.
Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard alors ?
Pour travailler précisément là-dedans. J'ai fait mes études là-dedans.
D'accord. C'est-à-dire ?
J'ai fait les études dans la restauration du patrimoine bâti.
Bon, je te souhaite un bon séjour et un bon chantier. Merci. Life brings all the bad movies and all the earthquakes. All the worst days are just buried into the snow. Je peux vous embêter 2 minutes? Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici, sur ce chantier ?
On est en train de rénover donc le hameau de barrière. Pas rénover entièrement, mais reconstruire quelques murs pour montrer aux personnes qui viennent visiter comment était en fait le hameau à l'époque. Il n'était pas comme maintenant, quoi.
Oui.
Les murs, en fait.
Oui, parce que là, c'est vraiment une ruine, une grosse ruine. Nous sommes à l'enceinte d'une maison, ici. Là, il y a vraiment du déblaiement à faire, finalement.
Oui, c'est beaucoup de... On enlève beaucoup de cailloux parce qu'en fait, toutes les pierres se sont cassées d'un coup. Du coup, en fait, faut retrouver toutes les bonnes pierres pour pouvoir construire vraiment les murs. Alors que là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de pierres, quoi.
Là, c'est vraiment, ouais, tout un tas de petites pierres à morceler. C'est la première fois que tu viens faire un chantier comme celui-ci ?
Comme celui-ci, oui. Sinon, oui, j'ai fait un autre chantier l'année dernière.
Dans le même style, avec des ruines comme celle-là?
Non. On a rénové le lavoir de Prandaigne. Du coup, c'était pas du tout ça, quoi. C'était juste de la rénovation avec de la mosaïque, rendre plus beau et réouvrir les chantiers perdus, quoi.
Une habituée de Déclame, si je comprends bien.
Depuis 2 ans, ouais. je trouve ça bien, cette association pour aider le patrimoine et tout ça. Je trouve ça exceptionnel. Tout le monde ne le fait pas, en fait. Et puis, jeunes de tout horizon peuvent venir dans cette association. C'est bien.
Donc l'année prochaine, tu seras aussi parmi eux ?
Je pense. Si un chantier me plaît, je pense que oui, je reviendrai avec l'association Déclame.
Merci beaucoup. Qui je peux embêter maintenant ?
Laure.
Laure. Alors, Laure, toi aussi, tu es là sur ce chantier. Pourquoi avoir fait ce chantier-là ?
Moi, c'est l'idée de rénover un hameau abandonné, clairement, pour pouvoir voir une tranche d'histoire et essayer d'imaginer comment les gens pouvaient vivre ici, justement. Parce que c'est assez loin, moi je viens de Paris, et c'est assez loin de ce que je vois d'habitude.
Est-ce qu'on arrive à s'imaginer comment les gens vivaient ici, alors ?
On arrive à visualiser un peu avec... Donc on a des bâtiments, là on voit une... ce qui pourrait être une ancienne cheminée, justement, on voit les pâtures. On arrive à visualiser un peu. Après, c'est difficile de se mettre à la place de ceux qui habitaient là. Mais...
Et donc, les chantiers comme celui-ci, c'est quelque chose que tu connais ou tu as voulu découvrir un petit peu le patrimoine d'ici aussi ?
Oui, moi, c'est la première fois que je viens dans le Lot. Et justement, c'est une région que je connais pas du tout. Et je trouve que c'est intéressant de découvrir comme ça une région et une partie de la France, une partie de tout ce pays et ce patrimoine.
Et tu fais quoi comme métier, comme étude ?
Moi, je vais commencer mon Master 2 d'économie en aménagement territorial à Paris.
Est-ce que tu arrives à trouver un lien entre justement tes études et ce chantier-là ?
Moi, comme je vais essayer d'améliorer l'aménagement du territoire, donc je trouve que justement cette association, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est des personnes comme ça qui essayent de pas sauver, mais améliorer et entretenir du patrimoine historique et qu'on ne fait plus vraiment maintenant.
Yannick, bonjour.
Bonjour.
Donc toi, on va dire que tu es le référent ici. Hein.
Ouais, encadrant technique en pierre sèche. Voilà, donc moi je suis diplômé d'un CQP, certificat de qualification bâtisseur pierre sèche, que j'ai passé avec les artisans bâtisseurs pierre sèche dans les Cévennes. Voilà.
Donc spécialiste de la pierre sèche, j'imagine que là tu es servi avec de la pierre sèche là.
C'est vrai que le hameau des barrières est quand même exceptionnel au niveau pierre sèche. On a un gros patrimoine et on a surtout un patrimoine qui a jamais été, qui est resté tel quel depuis 80 ans, je pense. Du coup, il y a tout à faire. Alors, ce qui est fabuleux sur ce site, c'est qu'il est resté. Alors, on a des ruines, mais c'est des ruines encore bien visibles parce que justement, il est bâti à sec. Si on avait eu du mortier, les murs se seraient détruit plus rapidement. Là, comme les maisons, les granges, tout le patrimoine, tout le bâti qu'il y a est bâti à sec, les murs sont restés debout parce que les propriétés de la pierre sèche c'est de drainer, donc l'eau peut rentrer dans le mur, mais l'eau va tout de suite sortir du mur. Donc quand on a du mortier, ce mortier avec l'eau, petit à petit se désagrège et donc ça crée des jeux entre les pierres. Et les pierres bougent, sortent du mur et le mur tombe. Alors que là, comme c'est bâti à sec, donc il n'y a que du calage avec de la petite, de la moyenne, de la grosse, les pierres ne craignent pas l'eau, quoi. Voilà.
Ce qui était un énorme boulot à l'époque aussi de bâtir en pierre sèche, non ? Vu qu'il fallait peut-être caler les pierres les unes sur les autres, choisir la bonne pierre.
Alors la pierre sèche à la base c'est un savoir-faire paysan, les origines, La première explication, c'est les pierres issues du champ. Donc l'agriculteur, le paysan, quand il entretient sa parcelle, il sort les pierres du champ et ces pierres pour les ranger, que ça tienne moins de place, puisque la priorité c'est la parcelle, donc c'est la terre. Pour que ça tienne moins de place, il faisait des petits murets. Donc il en profitait pour faire des murets de clôture. Donc c'est des murs double parement. Ou il crée des terrasses, donc des murs de soutènement. Voilà. C'est les deux types de murs que l'on retrouve en pierre sèche. En France, on a beaucoup de murs de soutènement, donc c'était lié au travail de la terre dans les vallées, donc dès qu'il y a de la pente. Et le mur double parement, le mur de clôture, était utilisé plus pour garder les bêtes dans un enclos ou pour justement éviter que les bêtes rentrent dans un enclos, un jardin, un potager, voilà.
Ici, on est sur le Causse, donc des pierres, il n'y a que ça finalement.
Ouais, il n'y a que ça. Donc, savoir-faire paysan, on prend ce qu'il y a sur le site, donc c'est une problématique locale. Aujourd'hui, les matériaux sont importés de l'étranger. Avant, on prenait ce qu'on avait, donc ici beaucoup de pierres, donc on utilise la pierre. Alors, très rapidement, là sur le site, on trouve la roche-mère. Donc, les habitants travaillaient la roche, enlever la pierre et l'utiliser pour les maisons, pour les granges, pour les sous à cochons, pour tout ce qu'ils avaient besoin, pour le four à pain. Voilà.
Ici, c'est quoi ? C'est du calcaire essentiellement, non ? Comme type de pierre ?
Ouais, sur le Causse, on est sur le Causse, donc du calcaire. Alors un calcaire, il y a différentes veines. Il y avait une intelligence à l'époque. Pour trier la pierre, la reconnaître. Donc les plus belles pierres qu'on pouvait prendre pour les parties les plus contraignantes, donc escaliers, encadrement de portes, de fenêtres. Donc il y avait un choix de pierres qui était fait. Donc les plus belles pierres et celles qui n'étaient pas gélives. Parce que là, on a quand même des pierres qui sont gélives avec le temps. Donc il y avait un choix important qui était fait. Dès qu'on avait une veine de calcaire, Le paysan avait l'expérience pour reconnaître la bonne pierre de la moins bonne. Et donc du coup la bonne pierre était utilisée pour du bâti, la moins bonne pour du mur de clôture, du mur de parcelle. Voilà.
Parce que ici on a l'impression que c'est pas des gros blocs qui, mis à part les encadrements, c'est quand même de la petite taille. Alors que Gilles Faux nous a dit qu'il y avait aussi des menhirs, enfin des gros blocs énormes. À l'état naturel, la pierre, elle était petite ou étalée ou pas ?
La pierre, elle a un lit dans sa carrière. Et donc, on a de tout. On a des grosses pièces, on a des petites pièces. Quand ils ont posé leur dolmen il y a plusieurs centaines et milliers d'années, ils ont trouvé de belles veines. Donc il y avait un choix qui était fait. Donc ça pose après la question de la manutention aussi, parce que la grosse pierre est plus compliquée à manipuler et à mettre en place. Une pierre de taille moyenne, on va dire, est plus accessible. Sur un mur, souvent on a les grosses pierres qui vont être en bas du mur, et plus on monte et plus on pose de la petite. C'est une question d'organisation et de mise en œuvre. Voilà. Après, il y a tout type de pierre et toute dimension, quoi. Voilà.
Alors ici, donc, avant de rebâtir, il faut débâtir, j'allais dire. Enfin, je sais pas comment on dit. En tout cas, enlever les pierres pour pouvoir les reposer, c'est un énorme boulot, ça, déjà.
Ouais, c'est le premier travail, c'est la préparation. Donc, la préparation du mur, elle consiste déjà. Donc, là, c'est des reprises de mur. Quand on fait une création, on part de la fondation. On va mettre en place d'abord les pierres de fondation, et après, on bâtit le mur. Là, nous, on est sur de la reprise. Donc, reprendre un mur, ça veut dire enlever toute la partie qui est en mauvais état, donc qui est partie, qui a pris du ventre. Soit on arrive jusqu'à la roche-mère, donc ici on a la roche-mère, ce qu'on appelle le bon sol, ici c'est la roche. Soit si les premières rangs de fondation sont sains, on nettoie et on repart dessus. Alors, on démolit le mur. Et on fait, en démolissant, on fait un tri. Donc on va se laisser une bande de travail devant le mur de 1 mètre pour pouvoir circuler. Et derrière, on va poser les pierres. En démolissant le mur, on les trie. Donc on va trier les pierres à bâtir, donc celles qui ont une phase de parement, les pierres de calage et les pierres de remplissage. À chaque fois qu'on pose une pierre, on la cale. On dit qu'une pierre posée, c'est une pierre calée. On en pose plusieurs. sur un parement, ensuite on fait l'autre parement, et entre ces deux parements, on va remplir. On va remplir avec de la pierre de remplissage, donc c'est de la pierre qui n'a pas de face, mais on porte quand même un soin à la manière dont on pose ces pierres. On peut jeter des seaux de pierre, c'est vrai qu'il y a moins de... On cherche tout le temps à avoir du contact entre les pierres, il faut du contact. Et toujours garder comment dire, un niveau pour bâtir. Voilà, donc on commence par les pierres du parement, de chaque côté, après on remplit, on nivelle, et on recommence le rang d'après, ainsi de suite. Une autre règle fondamentale, c'est toujours de croiser les joints, pour éviter d'avoir des coups de sabre. Ces coups de sabre, c'est des faiblesses dans le mur. Donc il faut être toujours vigilant de croiser les joints. Alors ici, on se trouve sur un type d'appareillage qu'on appelle un opus assisé. Donc c'est du calcaire, il y a des lits, et c'est des pierres qui sont relativement droites. Donc on assise ces pierres, ça veut dire qu'on essaye toujours de niveler. Et on alterne du coup des pierres plus ou moins grosses, mais on nivelle, pour toujours penser à la pierre d'après.
Alors, je veux bien en nivelle, mais comment vous faites? Parce que je vois pas de niveau ici.
Alors, quand on dit niveler, ça veut dire essayer de créer un lit d'assise à peu près de niveau. Là, on a deux types de murs. On a un bâti soigné au niveau de la maison et on a un mur un peu plus paysan. Alors, niveler, ça veut dire qu'on va on pose une pierre. Dès qu'on va poser celle d'à côté, on va chercher à récupérer le niveau de la pierre d'à côté. D'accord. Voilà. Et on nivelle comme ça. Donc, à chaque pierre que l'on pose, on essaye tout le temps de niveler. Alors, on peut poser des pierres plus grosses ou des pierres plus fines, mais sur un même rang, sur une pierre qui va faire, je sais pas moi, 20 cm, la pierre d'à côté, soit elle fait 20 cm, soit on en met deux de 10 cm. Voilà. Mais on nivelle. On cherche toujours à niveler. L'idée, c'est de se simplifier aussi, c'est de penser au rang d'après. Parce que si on crée des décalages, on se crée une contrainte supplémentaire. Donc, on cherche toujours à un petit peu anticiper le travail.
Donc en fait, ici, il y a besoin de bras, de seaux et de pioches, mais pas d'outils dits modernes, finalement.
Non, la technique pierre sèche, c'est sa force. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'outils. Sur un bâti paysan, il y avait l'outil principal, c'était le têtu pour le calcaire, pour travailler le calcaire.
Voilà. Le têtu, c'est ?
Alors, le têtu, c'est un outil avec un côté en pointe de diamant ou un tranchant. Et de l'autre côté, c'est comme un marteau, sauf qu'il y a deux arêtes et c'est légèrement concave. Voilà, et on travaille avec la tranche pour dégrossir la pierre. C'est pas réellement de la taille de pierre, on dégrossit les pierres, donc on enlève les bosses, on ressort les arêtes de la pierre. Voilà. Donc on le travaille un petit peu, mais c'est pas réellement un vrai travail de taille de pierre. D'accord.
Voilà. Ben merci Yannick. Merci. À bientôt.
À bientôt.
Alors donc du coup, oui, la doyenne, je me tourne vers la doyenne. ton implication ici, c'est la première fois que tu fais un chantier ici à Desclam?
Alors c'est la première fois que je fais un chantier tout court même, hein, voilà. J'avais du temps à perdre, donc je me suis dit, faisons quelque chose de concret. Donc voilà, ça m'a bien plu ici. Et puis travailler la pierre sèche, ça change un peu. Et puis on sort motivé, on apprend plein de choses. Et c'est ce qu'il me fallait. Vider la tête, apprendre et travailler dans la bonne humeur.
Ah. Donc une expérience à renouveler.
Une expérience à renouveler. J'avais un petit peu peur pour mon dos, mais finalement, en faisant les bons gestes, les bonnes postures, tout va bien. Et puis on est une bonne équipe, solidaire, voilà, c'est très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une excellente façon de s'impliquer pendant l'été et d'apprendre plein de choses dans une très bonne ambiance. Et on n'oublie pas de prendre aussi du bon temps, aller guincher, aller faire des petites soirées, des petits lacs, et voilà. Donc venez nombreux, parce qu'il reste encore plein de cailloux, et voilà.
Alors j'ai du caillou ici, hein. Merci. Alors, je vous vois, pelle, râteau, on ratisse ici. Hein.
On essaye de déblayer un maximum de grosses pierres pour faire le tout propre et pour pouvoir planter un bel arbre dans le futur.
D'accord. Parce que là, ici, nous sommes dans le jardin. C'est difficile à imaginer, ça.
À la base, je sais pas si c'était un jardin, mais maintenant, c'est, je pense que c'est prévu que ça en soit un.
Là, il y a la pâture. Là-bas, il y a la grange. Entre la grange et les petits bâtiments, on ne sait pas si c'était une citerne. On ne sait pas encore. On va peut-être dégager. Donc ici, on pense qu'on va en faire un jardin pour mettre les arbres, tout ça, pour montrer qu'on a fait quelque chose. Quoi. Ça restera dans le temps. C'est vachement cool et super intéressant d'avoir fait ça.
Du coup, c'est la première fois que tu fais un chantier ?
Non, c'est la deuxième fois qu'on fait un chantier. Ouais. Nous, on vient du Nord, on en a fait un à Gouiz, en Picardie. Et du coup, on avait envie de retester l'aventure. Et on s'est décidé sur un coup de tête, tiens, on va dans le Sud, on va tester un truc qu'on connaît pas. Et c'est super cool, on est super contents.
Parce que la Picardie, c'est pas la porte à côté quand même.
Ah, nous, on vient encore plus au Nord que la Picardie. Hein. Ah. On vient d'Arras, je sais pas si vous connaissez dans le coin.
Tout là-haut.
On vient de tout là-haut, on est descendu en train. Quand on est arrivé ici, c'est coup de foudre. Hein. C'est magnifique. C'est même la pierre sèche et tout partout. C'est un truc de fou de voir autant d'espace libre, sans l'activité de l'homme et tout. C'est génial, quoi. C'est un chantier super. Moi, je conseille à tous les gens qui ont envie de se lancer là-dedans d'y aller avec des clams parce que c'est des gars qui sont géniaux. Franchement, je sais pas. Je sais plus quoi dire tellement c'est bien.
Bon, du coup, vous allez revenir l'année prochaine, c'est ça ?
Peut-être, on sait pas encore. On verra si.
S'il prévoit de faire ça en été, oui, alors ?
Il y a de fortes chances, ouais. Ouais. Ouais, vu que c'était vraiment le coup de foudre, le secteur, le paysage. Même le boulot, même si c'est physique, on est là pour ça aussi en même temps. Puis la satisfaction du travail bien fait.
Ça fait du bien de donner de soi pour le patrimoine, parce que c'est quelque chose qui va rester après que nous on soit plus là. Et du coup, ça fait plaisir de savoir qu'on s'est impliqué dans quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas pour toi si c'est pareil.
Qu'est-ce que vous faites dans votre vie, mis à part les chantiers participatifs ?
On est au chômage depuis quelques années et du coup, on cherchait une redirection professionnelle. Donc, lui est tombé amoureux de la pierre sèche. Moi, je suis plus dans le tourisme et l'animation, donc c'est vraiment complémentaire sur ce genre de trucs. Et je pense qu'on va, dans le futur, monter une assoce pour faire de la restauration de patrimoine aussi.
Et pourquoi pas s'associer à des clams ?
Ouais, pourquoi pas. Si des clams sont d'accord, pourquoi pas, hein.
Je pense qu'ils ont toujours besoin d'aide. Hein.
De toute façon, c'est interminable. Hein. Faudra toujours restaurer. Il y aura toujours des endroits à restaurer. C'est pour ça, quoi. C'est génial. Ça permet de rencontrer des gens, de découvrir de nouvelles régions. C'est super, quoi. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être plus connu aux yeux du monde. Parce que je pense que c'est pas assez connu, que ce soit dans le sud ou dans le nord de la France, l'est, l'ouest. Devrait y avoir plus de pubs pour remparts et les chantiers bénévoles comme ça, pour donner de son temps. Quoi. Parce qu'il y a plein de gamins qui foutent rien de leur journée, qui sont enfermés dans leur cité, qui n'ont rien d'autre à faire. Peut-être qu'ils seraient super heureux de venir ici, mais qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Quoi. Donc c'est pour ça, moi, tous ceux qui m'entendront s'ils m'entendent... Je les conseille de venir fortement, hein, même s'ils sont adultes, tout ça, c'est génial, c'est super expérience.
Eh bien, je te remercie de ce témoignage. On disait tout à l'heure que c'était bien d'avoir des accents aussi.
Moi, j'ai trop l'accent déjà.
T'as trop l'accent déjà ?
Ouais, parce que ouais, je viens de Mali, je suis malien. Ouais. Donc, je suis là, ça fait un an et demi.
Dans le Lot ?
De quoi ?
En France ?
Ouais, ça fait un an et demi que je suis en France. Donc là, j'habite à Paris, donc je viens faire des chantiers.
Et ça te plaît de venir faire un chantier ici ? Tu connaissais déjà un petit peu la rénovation de...
Ouais, je connais un peu parce que je suis maçonnerie déjà. J'ai fait les CAP maçonnerie, première année. Donc cette année, je dois faire déjà une année. Donc, je suis proche des pierres MP. Voilà, quand même, ça me plaît. The worst days are just buried into the snow. And the worst days that life brings.
C'est la fin de cette émission consacrée au hameau de Barrière. Un grand merci à Gilles Faux, président de l'association Racine et conseiller municipal de Miers, et à l'équipe de l'association Déclame pour leur accueil sur le site. Pour plus d'informations sur les chantiers participatifs, contactez Dimitri de Déclame. Leur bureau se situe au premier étage de l'ancien CES, rue Victor Delbos, à Figeac. Concernant le hameau de Barrière, contactez Gilles Faux par mail à racine au pluriel @racine-alvignac.fr. All the worst days are just buried.